carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
L'Antiquité rêvée. Innovation et résistance au XVIIIe siècle. Tel est le titre de l'exposition proposée au Musée du Louvre en cet hiver 2010 sous le commissariat général d'Henri Loirette, membre de l'Institut, président-directeur du Louvre et de Marc Fumaroli de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et professeur honoraire au Collège de France. Un grand honneur et plaisir de recevoir M. Marc Fumaroli dans nos studios pour nous faire partager ses immenses connaissances et pour nous entretenir de cette période si riche en événements dans l'histoire de l'art. Marc Fumaroli, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous tout d'abord nous rappeler les grands courants artistiques du XVIIIe siècle qui se partagent en plusieurs périodes schématiquement distinctes, à savoir la redécouverte de l'Antiquité, les contre-courants à partir des années 60 et le dernier quart de siècle. Et déjà, avant de nous parler des artistes, parcourir, disons synthétiquement, les différentes écoles de pensée ou les principes philosophiques, si vous préférez. Marc Fumaroli.
C'est très vaste, votre question est immense. En fait, le XVIIIe siècle ne redécouvre pas l'Antiquité. L'Antiquité est découverte depuis le XIVe, XVe siècle italien. La fascination pour le grand empire gréco-romain n'a jamais été si puissant sur les esprits que pendant la Renaissance, que pendant le XVIIe siècle. Les grandes monarchies européennes se sont voulues, aussi bien à Vienne qu'à Madrid et à Paris, des renaissances de l'état politique romain ou gréco-romain. Et au XVIIIe siècle, l'Antiquité est toujours un objet d'intérêt général pour aussi bien les lettrés que pour le public qui lit. Alors, quelle est la différence entre cette passion pour l'antique des deux ou trois siècles précédents et celle du XVIIIe siècle? On peut le résumer en deux mots. D'une part, ce sont moins les textes antiques qui intéressent, comme c'était le cas auparavant. Ils sont redécouverts, ils sont réédités, ils sont médités, ils sont imités. Mais ce sont les images de l'Antiquité qui intéressent. On découvre que l'Antiquité, c'était aussi un paysage, c'était aussi des villes, c'était aussi des maisons où l'on habitait et où l'on se servait d'un certain nombre d'ustensiles pour vivre ou pour célébrer des cérémonies religieuses ou pour faire la fête. Donc une antiquité visuelle et non plus une antiquité de lecture. Et d'autre part, et on voit très bien cela, si vous voulez, par d'une part les grandes publications, parallèlement à l'exposition du Louvre, il y a eu une magnifique exposition sur les musées de papier, publiés au début du XVIIIe et au cours du XVIIIe, musées de papier qui sont des livres magnifiques, illustrés de gravures et montrant tout ce que l'on peut savoir, tout ce que l'on a retrouvé de la vie antique. Et tout cela est couronné, comme s'il y avait une sorte de nécessité mystérieuse, par les fouilles de Campanie, les fouilles qui dégagent de l'éruption des laves laissées par l'éruption du Vésuve au 1er siècle après Jésus-Christ, les villes, ou les petites villes, mais merveilleusement riches et significatives, de Pompéi et d'Herculanum. Et là, on retrouve non seulement des fresques antiques en grand nombre, ce qu'on n'avait jamais retrouvé jusque-là à ce degré, mais on retrouve aussi le décor quotidien de la vie antique, les instruments dont se servaient les dames pour se farder, les instruments dont se servaient les philosophes pour étudier. On retrouve des bibliothèques avec tout le matériel pour écrire. Bref, tout cela fait que c'est une antiquité qui devient beaucoup plus proche parce que c'est une antiquité vue, c'est une antiquité visuelle. Et alors évidemment, c'est un des grands genres de la peinture au XVIIIe siècle, tout le long du siècle, ce sera les ruines dans un paysage, comme si l'antiquité était un lieu où l'on peut se promener, habiter, dialoguer avec les anciens et peut-être ramener parmi nous quelque chose d'aussi civilisé qu'ils avaient élaboré.
Et qui donne donc un nouvel élan à toute la société jusqu'à,
alors, évidemment, cela,
jusqu'à la mode.
Je ne sais pas si cela a été un élan que toute la société a embrassé, pour la bonne raison que, certes, en Angleterre, dès 1688, dès la révolution anglaise, qu'ils appellent la Glorious Revolution, l'aristocratie anglaise s'est voulue romaine, et donc le retour à l'antique, si j'ose dire, le goût pour l'architecture antique, pour le décor antique, s'est beaucoup développé en Angleterre très tôt, dès le début du XVIIIe siècle. D'autre part, les aristocrates anglais envoient leurs enfants, leurs fils, à Rome, en Italie,
faire le grand tour d'Italie,
pour étudier l'antique, pour en rapporter des tableaux, des sculptures, pour en rapporter des objets. Et en somme, l'Angleterre a été un des grands acteurs de ce retour à l'antique. D'autre part, à Rome même, qui est la capitale artistique de l'Europe, et en même temps que la capitale religieuse du catholicisme, on n'a jamais renoncé à l'antique. Rome est remplie de ruines, Rome est remplie de collections de sculptures antiques, et on a retrouvé quelques fresques, mais rien de comparable à ce qu'on retrouvera à Pompéi, mais quand même. Et d'autre part, toutes les nations européennes envoient à Rome leurs artistes pour se former, pour copier l'antique, pour dessiner d'après l'antique, pour apprendre leur métier de peintre, de sculpteur, d'architecte, d'après l'antique. Donc, les deux foyers, si vous voulez, du retour à l'antique, c'est Rome, essentiellement, mais aussi l'Angleterre, du fait que la nouvelle Angleterre, celle d'après la Révolution de 88, se rêve en Rome, en Empire romain. Et d'ailleurs, c'est bien ce que les Anglais vont faire, vont construire un empire tout à fait analogue à celui de Rome. Alors la France est tout à fait singulière dans cette affaire, parce qu'au début du XVIIIe siècle, elle invente, un peu avant la mort de Louis XIV, mais surtout sous la Régence et sous les débuts du règne de Louis XV, elle invente un style qui n'a rien d'antique, qui est le style rocaille. Ce style rocaille, c'est un style de l'imagination, de la fantaisie, du sourire, un art du plaisir, mais aussi un art du bonheur. C'est un art qui convient parfaitement au plaisir de la vie privée et que le régent et puis le jeune Louis XV patronnent, si j'ose dire, dans la mesure où ils veulent être, contrairement à Louis XIV, des rois de paix, des rois qui promettent à leurs sujets la détente, la fortune aussi, l'abondance, et aussi le goût du plaisir, le goût du bonheur. Et ça n'a rien à voir avec l'antique, hein, ça n'a à voir que très lointain.
C'est donc le rocaille ou le
rococo.
C'est
le rocaille qui est vraiment l'art moderne de la France du début du XVIIIe siècle. Et comme la France est quand même le pays qui a autorité, qui est hégémonique, le rocaille se répand partout, en Allemagne du Sud, en Pologne, en Autriche et même en Italie. Alors comment la France, au fond la question qui est posée dans l'exposition, même si ça n'est pas posé de façon trop ouverte, puisque c'est une exposition européenne, la question qui est posée dans cette exposition, c'est pourquoi la France est-elle ralliée au retour à l'antique dans les arts, alors qu'elle avait élaboré en deux générations un art merveilleux qui devait peu de choses à l'antique et qui avait eu un énorme succès dans toute l'Europe. Je crois que c'est essentiellement dû au fait que les hautes autorités de l'administration, qu'on appellerait aujourd'hui le ministère de la Culture, si vous voulez, enfin, c'était tout autre chose au XVIIIe siècle, c'était la surintendance des bâtiments du roi, c'était la surintendance des menus plaisirs du roi, c'était l'Académie de peinture, sculpture, qui travaillait presque exclusivement pour le roi. Les responsables, en somme, les principaux acteurs de cet univers à l'intérieur duquel s'élaborait le style de la monarchie, se sont convaincus que ce style rocaille était nuisible à l'image de la monarchie et du roi, que c'était une image trop légère, fantaisiste, sensuelle, voluptueuse, hédoniste, que le roi, c'était aussi le chef des armées, c'était aussi un pouvoir, et le pouvoir doit s'affirmer avec gravité. Donc, il y a eu tout un groupe d'amateurs, d'abord, de connaisseurs, mais aussi de grands administrateurs, mais aussi d'académiciens, qui ont décidé qu'on allait redresser la situation, qu'on allait enseigner la peinture et la sculpture autrement pour les nouvelles générations, que l'on allait donner de nouvelles consignes à l'Académie de France à Rome, où étaient formés les meilleurs artistes, les jeunes élèves de l'Académie, et donc les futurs artistes du roi. Et on s'était préoccupé aussi de donner de Louis XV une image plus, comment dirais-je, plus sévère, plus
prestigieuse,
proche de celle qui avait fait prestige de son arrière-grand-père, Louis XIV. Alors, je crois qu'on voit dans cette exposition comment, autour des années 50, ce mouvement qui a commencé beaucoup plus tôt, ce moment de critique du rocaille, aboutit, trouve des expressions littéraires d'abord, comme par exemple le traité des pierres gravées de Pierre Mariette, qui est un véritable manifeste du retour au dessin antique, du retour à la précision de la forme antique, et une critique très dure du flou et de l'improvisé du rocaille. Et puis aussi, on voit apparaître des artistes, d'abord le grand sculpteur Bouchardon, qui est une des grandes figures de l'exposition, par plusieurs œuvres, par plusieurs dessins. Aussi un peintre, Jean-Marie Vien, qui va être le maître de David. Et donc là, on a la dynastie néoclassique en peinture. Mais aussi dans le domaine des meubles, dans le domaine des objets, par exemple les porcelaines ou les faïences des différentes manufactures de vaisselle ou de vases. Tout cela prend un autre tour. La complexité un peu tourmentée du rocaille disparaît. On voit apparaître la ligne droite, on voit réapparaître les angles, on voit réapparaître la simplicité dans la forme. Et donc là, il se trouve que la France va dans le sens où allait l'Angleterre, où allait Rome et où allait en quelque sorte le reste de l'Europe qui va suivre en quelque sorte.
Oui, on est tout de même au siècle des Lumières en France.
Alors le siècle des Lumières, eh bien, il avait été rocaille et maintenant il devient,
voilà, plus,
on appelle cela néoclassique,
orienté vers le,
j'aime
l'antique.
Pas beaucoup l'expression parce que, au fond, un des buts aussi de cette exposition, c'est de montrer à quel point cette expression est limitée, parce que ce retour à l'antique, il prend des aspects très différents. Par exemple, en France, il prend l'aspect de ce qu'on a appelé le néo-grec, qui est très élégant, très raffiné, qui rompt effectivement avec le rocaille, mais qui garde du rocaille une préférence pour ce qui est gracieux, ce qui est extraordinairement fini et d'une perfection artisanale supérieure. Mais il y a aussi un retour à l'antique fantastique, dans la mesure où, par exemple, les Anglais, sous la plume de Edmund Burke, définissent tout à coup le sublime comme le but suprême des arts. Et le sublime, c'est le contraire du beau, qui est trop harmonieux, qui est trop parfait, et il s'allie à la terreur, au sentiment violent. Et cela, les Français n'avaient jamais envisagé cette orientation-là. Et dans l'exposition, on montre que plusieurs artistes anglais ou proches de l'Angleterre, comme Fuseli, ont été très loin dans cette direction. Et pour eux, l'Antiquité, c'était Ossian, c'est-à-dire un Homère celtique, c'était Shakespeare, une sorte de tragique du Nord. Et d'autre part, il faut bien reconnaître aussi que tout le monde n'a pas suivi ce mouvement qu'avaient déclenché les hautes sphères de la monarchie. Il y a des peintres qui sont restés fidèles au rocaille, par exemple Fragonard qui adorait Tiepolo, qui avait séjourné à Venise, qui avait admiré les fresques et les tableaux d'hôtel de Tiepolo, est resté fidèle au rocaille jusqu'à ses derniers jours. Et c'est un artiste de tout premier ordre. Donc tout le monde n'a pas marché au garde-à-vous. À partir d'un moment, il n'y a pas eu de mot d'ordre de retour à l'antique. Il y a eu même quelques, l'exposition le montre très bien, non seulement une fidélité au rocaille, comme celle de Fragonard, mais il y a aussi certains artistes qui ont préféré rester fidèles au baroque, grand baroque de l'Italie de la fin du XVIIe siècle, et se sont refusés à l'austérité, à la sévérité, à la gravité du nouveau style à l'antique.
Ça nous mène tout droit à l'exposition proprement dite. Est-ce que je peux vous demander de faire le guide, en quelque sorte, à travers les trois sections du parcours ?
Ce qui frappe d'abord quand on arrive, c'est une salle entièrement dédiée à la sculpture. Et là, on voit un portrait un buste très exactement de Louis XV du sculpteur Adam, qui est parfaitement rocaille. Le roi est représenté jeune, les épaules nues, enveloppé dans un linge agité par le vent, le regard curieux, intense. Bref, c'est un portrait de fantaisie, si j'ose dire, qui ne cherche pas à imposer du roi l'image de grandeur ou d'autorité. Et puis, on voit aussi, dans les mêmes années, plusieurs bustes, l'un anglais, bien sûr, représentant un grand seigneur anglais en toge, avec les épaules nues, mais avec une sorte de drapé à la romaine, et puis les cheveux courts, comme s'il s'agissait d'un sénateur ou même d'un empereur
romain,
romain
oui. Sorti
du,
tout droit
du deuxième
de la Rome
ou troisième siècle. Et puis on voit aussi Bouchardon à Rome faisant des bustes de ce genre pour des Anglais ou des agents anglais qui les lui commandent. Et puis on a mis aussi un très beau tableau de Boucher qui représente Vénus, la féminité la plus charmante, la plus joyeuse aussi, au milieu de dizaines de nymphes qui l'entourent au bord de la mer. Et on a l'impression justement de cet art voluptueux et féminin qu'est le rocaille, par opposition à ce que nous allons voir, c'est-à-dire la tendance à aller vers un art sévère, un art grave en tout cas, et un art très masculin, où la féminité est renvoyée, si vous voulez, au rôle de confidente ou de témoin, mais non pas de protagoniste. Alors que dans les tableaux de Boucher, c'est toujours la femme qui est au centre. C'est
oui.
Elle qui règne, qui fait régner autour d'elle les joies, les petits amours et les grandes amours.
Oui, mais tout à l'heure, vous avez évoqué Edme Bouchardon. Et il y a une sculpture absolument sublimissime qui est l'amour taillant son arc dans la massue d'Hercule.
Oui, c'est une statue datant de 1750. C'est donc vraiment, et Bouchardon l'a longuement préparé parce que lui, il est rentré à Paris de Rome vers 1732-33 et il a ramené avec lui justement une technique de sculpteur et de dessinateur formée sur l'antique. Pas du tout sur Bernin, pas du tout sur les grands sculpteurs du XVIIe siècle. Et donc là, il a donné peut-être son chef-d'œuvre au salon de 1750, d'un jeune amour qui est en train de travailler à transformer la massue d'Hercule en un arc pour lancer ses flèches. C'était presque un manifeste, en fait, d'un art plus sévère, moins agité et moins sensuel aussi.
On évoquait tout à l'heure les trois sections du parcours donc de cette exposition. Alors d'abord le renouveau du goût pour l'antique entre 1730 et 1770, puis les résistances donc à ces tendances aux innovations à l'antique entre 1760 et 1790.
Ces innovations sont souvent des retours en arrière parce que il est bien évident que quelqu'un comme Bouchardon regarde du côté de Charles Le Brun, c'est-à-dire du grand goût Louis XIV. Vient, regarde aussi du côté des peintres de l'Académie, des peintres aimés par Lebrun de Louis XIII et Louis XIV. Donc il y a un relais, si vous voulez. La rocaille avait rompu avec le grand goût Louis XIV, et maintenant on retourne à l'antique, mais on retourne aussi au grand goût Louis XIV. D'ailleurs, dans les meubles de la fin du règne de Louis XV et même une bonne partie du règne de Louis XVI, on voit réapparaître le soleil de Louis XIV un peu partout. Ça devient un des thèmes du retour à l'antique. Donc vous voyez, ce retour à l'antique est complexe. Et d'autre part, comme je l'ai montré, comme l'exposition, j'espère, le montre très bien, il est aussi très divers selon les nations. Les Anglais, les Allemands vont dans un sens. Les Français restent tout de même très modérés. Même David est un peintre sculptural, si je veux dire, j'employais. C'est vrai qu'il représente toujours une humanité virile et sculpturale, mais c'est toujours, je dirais, dans le sens de noble immobilité, alors que l'art sublime anglais ou allemand veut du drame, une sorte d'inquiétude tragique qu'on ne trouve pas en France. La France va rester une sorte d'unicum, enfin une sorte d'exception encore, jusqu'à la fin de l'Empire. Ce n'est qu'avec les romantiques qu'on voit apparaître une sorte de retour à l'antique.
Plus mélancolique.
Comme les Anglais, oui, c'est ça. Inspiré par une sorte de rêverie sombre. Là, la France rêve, mais elle n'a pas de cauchemar.
Oui.
Malheureusement, les cauchemars auront lieu, mais ils auront lieu dans la rue et pas dans l'esprit des artistes.
Mais c'est un trait national très heureux quand même.
Je ne sais pas.
En tout cas, là, donc,
peut-être vaut-il mieux avoir des cauchemars dans les œuvres d'art et les éviter
et
dans la
le
vie.
Bonheur dans la
alors
vie.
Que pendant la Révolution française, l'art est extraordinairement calme, classique et même un peu fade. Et la rue est remplie de sang.
Donc là, il était question de la première section, donc le renouveau du goût pour l'antique. Et puis on passe dans les années 60, 1760, aux résistances, aux contre-courants. Et là, quels sont les personnages les plus, disons, emblématiques ?
Bah, écoutez, j'ai cité tout à l'heure Fragonard, qui est représenté dans l'exposition par un magnifique morceau de réception à l'Académie, où il se joue un peu du retour à l'antique. Et d'ailleurs, il va s'en jouer tellement qu'il va rester un des grands représentants du rocaille. Mais il y a aussi plusieurs autres artistes de moindre taille, si j'ose dire, de moindre carrure, mais qui donnent des exemples de soit de tableaux religieux, soit de tableaux d'histoire, où le mouvement, le tourbillon, la théâtralité baroque se perpétuent. Mais ça n'est plus central, hein. Ce sont des figures un peu marginales déjà.
Et donc tout à l'heure, vous avez évoqué par deux fois le courant du sublime. C'est quelque chose de très intéressant parce que qui dit sublime pourrait imaginer quelque chose d'idéalisé, alors que c'est au contraire justement ce mouvement qui est d'abord essentiellement anglo-saxon.
Non, pas seulement anglo-saxon. C'est évidemment Burke qui a inventé le sublime lié à la terreur. Et ce sont des artistes anglais et l'un est un Suisse très proche des Anglais qui a vécu une bonne partie de sa vie à Londres, Füssli, qui en a été les meilleurs interprètes. Mais il y a aussi les Allemands, il y a aussi les Danois qui donnent un peu dans cette recherche, en quelque sorte, d'un frisson nouveau qui n'est plus simplement cette esthétique à la française où l'harmonie, la contemplation de conflits résolus est beaucoup plus recherché que la contemplation du drame et surtout du drame irrésolu.
Oui, on n'a pas encore parlé de ce fameux archéologue allemand Winckelmann qui était quand même une figure centrale.
Winckelmann, c'est autre chose. Il n'est pas du tout dans le courant du, comme vous dites, le courant du sublime.
Non, justement, il était pour le calme et le simple.
Oui, justement, oui. Ça serait le tableau magnifique qui a été exposé dans cette exposition. Le cauchemar de Füssli, qui est un chef-d'œuvre, c'est d'ailleurs son plus beau tableau de très loin. C'est complètement fantastique. C'est une femme allongée en train de faire un cauchemar. Une espèce de monstre s'est assis sur elle. Un autre monstre la guette. Elle est enveloppée en quelque sorte de désirs animaux furieux. C'est très étrange et c'est très neuf, évidemment. C'est très, très neuf. Ce n'est pas du tout la représentation de l'amour telle qu'elle avait été faite, même par les artistes les plus audacieux jusque-là.
Qui figure d'ailleurs sur le catalogue de l'exposition,
j'ajoute. Mais alors, Winckelmann, c'est un personnage extrêmement important. Il représente très bien la contribution de l'Allemagne, si vous voulez, à ce retour à l'antique. Il s'est arraché à ses origines modeste et à sa condition plutôt pathétique par sa science. Et il s'est arrangé pour venir à Rome, où il a connu en quelque sorte un extraordinaire bonheur, non seulement pour le climat, mais aussi pour le nombre d'œuvres d'art qu'il a eues sous les yeux. Et il a écrit cette histoire de l'art dans l'Antiquité, qui est souvent considérée comme la pierre angulaire de l'histoire de l'art en général. Mais pour Winckelmann, la grandeur de l'art antique, c'est qu'il est capable de représenter la nature en la portant à cette perfection qu'elle ne s'est pas donnée à elle-même. Et donc, on est devant une sorte de beauté tellement inattendue, tellement supérieure à celle que l'on voit ordinairement, qu'on en est saisi, transporté, et que l'on s'attache en quelque sorte d'une façon presque mystique à cette beauté. Donc ça n'est pas chez lui le sublime lié à la terreur, c'est le sublime lié au sentiment que des artistes ont réussi à rivaliser victorieusement avec la nature. Mais il y a quand même chez Winckelmann une dimension douloureuse, une dimension tragique, qui n'était pas dans les renaissances antérieures, que l'on ne trouve pas non plus, me semble-t-il, dans l'art français de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe. C'est le sentiment que cette beauté antique, elle ne se reproduira jamais. On ne peut pas la répéter. Donc on est à la fois transporté par elle et puis désespéré de ne pas pouvoir s'en montrer digne ou de pouvoir la répéter. Donc les modernes, et là les Allemands, les grands poètes allemands romantiques vont développer cela de façon admirable dans leurs élégies, Hölderlin. Nous sommes nés trop tard, mais ce qui nous sauve, ou tout au moins ce qui nous arrache à notre condition de tardif, c'est la contemplation de ce que les Grecs ont fait et la tentative qui nous reste d'entrer dans une sorte de dialogue avec les Grecs. Il y a une exaltation de la Grèce, du miracle grec, de la beauté grecque, de la splendeur de la pensée grecque liée à une idée un peu simplifiée de la vie politique grecque, vie de liberté, vie de débat libre et intense, qui accompagne en quelque sorte l'éclosion de cet art superbe. Tout cela, évidemment, a beaucoup marqué la culture allemande pour longtemps. L'Allemagne se considérant en quelque sorte comme le témoin par excellence parmi les modernes de la Grèce, l'Allemand lui-même étant considéré comme le grec des modernes.
Et à propos, on doit peut-être à Winckelmann, enfin vous allez peut-être nous le confirmer, la notion d'histoire de l'art, puisqu'il a écrit une histoire de l'art chez les anciens. Peut-être c'est grâce à lui que nous parlons dorénavant de l'histoire de l'art.
Vous savez, l'histoire de l'art de Winckelmann est très contestée. Elle était très vite d'ailleurs contestée. Le mérite de Winckelmann, c'est d'avoir tenté de construire une narration, de faire de l'art l'objet d'une narration. Avant lui, on parlait de l'art, on écrivait beaucoup sur l'art, mais sous forme discontinue. C'est-à-dire, on écrivait des vies d'artistes qui se succédaient.
Giorgio Vasari.
Ou alors, les antiquaires faisaient des monographies sur tel objet, sur tel statue, tel ingrédient que l'on avait retrouvé dans des fouilles, et on les juxtaposait. On en faisait une collection, on en faisait des livres, mais il n'y avait pas une véritable narration qui rattachait et donnait un sens à ces éléments épars. La force de Winckelmann, ça a été de construire un récit.
Ils sont toujours gründlich, les Allemands.
Alors, en France, nous avions un très, très grand antiquaire, qui a joué d'ailleurs un très grand rôle dans le retour à l'antique français, dans le néo-grec, dans la formation d'un certain nombre d'artistes qui sont très bien représentés dans l'exposition, Vien, nous en avons déjà parlé, mais aussi Le Lorrain, dont il y a un superbe tableau dans la 4e ou 5e salle, on ne voit jamais, mais que l'exposition nous permet de voir. Eh bien, Sequelus, donc, qui est un des grands mécènes et un des grands protagonistes du retour à l'antique français, c'est quelqu'un qui dédaigner de vouloir construire un système temporel de l'art. Il préférait avoir des vues à facettes, si vous voulez. Et ça lui a beaucoup nui, parce qu'il était très savant. Il avait peut-être infiniment plus de goût que Winckelmann. Il avait un rapport à l'œuvre d'art infiniment plus vivante que Winckelmann, mais il n'avait pas la force, ou tout au moins le désir, de construire un récit de l'art et des chapitres dans ce récit. Chez Winckelmann, détermine des étapes dans l'art grec et il détermine la place de l'art romain par rapport à l'art grec. Donc, grâce à Winckelmann, le lecteur du XVIIIe siècle pouvait se représenter tout un paysage, si j'ose dire, temporel, avec sa succession presque logique. Alors que la littérature qu'il avait à sa disposition ailleurs, y compris en France, était une littérature éparpillée et discontinue. Mais est-ce que l'art, après tout, n'est pas justement justiciable d'approche diversifiée ? On voit dans l'exposition à quel point l'idée de vouloir, par exemple, réduire la fin du XVIIIe siècle au néoclassicisme à un néoclassicisme serait abusif. Il y a un nombre de courants considérables. Chaque artiste même a son propre style. On ne peut pas les mettre tous au carré, c'est pas possible. Alors, il me semble qu'il y a une certaine fantaisie, en quelque sorte, dans le monde de l'art, qui résiste à la tentative winckelmannienne puis hegelienne, parce que le cours d'esthétique de Hegel va aussi proposer une vision cohérente, narrative des arts, qui a infiniment influencé, peut-être un peu trop, parce qu'on a perdu le sens de la discontinuité, le sens de la variété, le sens des incompatibilités de ce que recouvrent des concepts aussi circonscrits que baroque, classique, néoclassique, romantique. Chaque fois, effectivement, sous ces concepts, il y a des multiplicités que l'on est obligé de, qu'on a tort de sacrifier. Voilà.
Justement, je vous propose d'aborder la dernière partie de l'exposition qui est consacrée au néoclassicisme, multiple néoclassicisme, comme vous venez de le dire, après une courte pause. Reprenons ce retour à l'antique au XVIIIe siècle, cette antiquité rêvée que nous connaissons plus communément sous le titre néoclassicisme. Et le spécialiste en ce domaine, Marc Fumaroli, nous fait la faveur d'être venu à notre antenne pour nous éclairer. Et au sujet du ou des néoclassicismes, donc, nous pouvons lire dans le somptueux catalogue de l'exposition un passage qui peut sembler mystérieux. Je vous cite Marc Fumaroli. « Le néoclassicisme est le masque à l'antique que s'est donné une modernité en gestation qui s'ignorait encore. » Cela mérite quelques explications, si vous voulez bien, Marc Fumaroli.
Oui, c'est une phrase un peu volontairement mystérieuse. Je veux dire par là que ce produit au cours du XVIIIe siècle, et en particulier en France, évidemment, c'est l'endroit où les grandes fractures se manifestent, une véritable révolution des mœurs, des idées, et qui va déboucher sur une révolution politique. Mais si on regarde les arts sans se préoccuper de leur contexte historique, ils pourraient donner l'impression d'aller au contraire vers une répétition, une réaction, un conservatisme. Ils reviennent à Poussin, ils reviennent à Charles Lebrun, comme nous l'avons dit, ils reviennent à ces anciens qu'on admire depuis 3 siècles.
Le Sueur.
Oui, le Sueur. David a beaucoup médité le Sueur, de même qu'il a beaucoup médité Poussin. Mais je veux dire aussi aux grandes sculptures, aux statues et aux fresques que l'on connaissait de l'Antiquité et qui étaient des modèles pour Raphaël comme il l'était pour les Carrages, comme il l'était pour Poussin, comme ils le sont de nouveau pour Vien et pour David. Alors il y a une espèce de contradiction entre ce conservatisme, si vous voulez, qui est fondé sur l'idée que le classique, c'est là que se trouve le secret du grand art, et puis cette révolution générale qui bouleverse la société traditionnelle, ses hiérarchies, et l'idée que l'on s'en faisait. Et je pense que les contemporains ont été préservés de voir à quel point ils étaient en train de changer de société, de changer de monde, parce que autour d'eux, tout parlait d'une antiquité intemporelle. Vous voyez ce que je veux dire ? D'une antiquité qui, elle, était hors de l'histoire. Alors, ils vivaient leur histoire, mais avec des formes qui leur faisaient croire qu'elles n'appartenaient pas à l'histoire. Et ça leur a permis, évidemment, de traverser toutes ces épreuves sans trop être troublés, parce que la Révolution va vivre dans un décor à l'antique, le Directoire aussi, le Consulat aussi, et l'Empire aussi. Alors, ce qui continue sans la moindre interruption, c'est le décor antique.
Le modèle, oui.
Le décor antique. Et ce décor qui est une grande variété, d'une grande richesse, hein, c'est vrai. L'art de l'Empire est un art magnifique. Il touche à tout, à la mode, comme au mobilier, comme à l'architecture, comme à l'art de la fête, comme à l'art littéraire. Et donc, il me semble, ce que j'ai voulu dire, c'est que contrairement à ce qui se passe au XIXe siècle et encore plus au XXe et encore plus au XXIe siècle, où les arts veulent être en quelque sorte encore plus chaotiques que le monde l'est, là, il y a un contrepoids. Il y a un contrepoids. L'art, lui, est intemporel. Alors qu'on vit.
Masque, une... donc, à l'antique dont
voilà,
vous parlez.
C'est un masque à l'antique posé sur un monde qui est en train d'évoluer avec une grande rapidité et de se modifier de façon extraordinairement puissante.
Donc, cette modernité en gestation que vous citez, enfin, plutôt que je cite pour vous, cette modernité se traduit aussi dans les œuvres ou uniquement dans les mentalités ?
Justement, je vous dis, elle ne se traduit pas dans les œuvres. Les œuvres mentent. Elles mentent volontairement.
Mais
elles veulent créer un monde de beauté qui ne change pas.
Oui, jusqu'à, disons, l'Empire. Mais quand vous parlez d'une modernité en gestation, qui s'ignorait encore...
Mais c'est une modernité d'ordre politique, d'ordre social, pas d'ordre artistique.
Pas d'ordre artistique du tout.
Pas du tout.
C'est très intéressant.
Alors, il y a effectivement des choses étranges dans cette exposition. On voit pour la première fois, parce qu'on n'a jamais vu dans une grande exposition David, une psyché de David. Et là, on a la stupeur de découvrir que David, qui est plutôt un artiste très léché, est capable de faire cet magnifique portrait féminin, alors qu'on le croit aussi toujours concentré sur des corps héroïques et virils. Et d'autre part, sa technique est celle de Seurat. Ce sont des petites taches posées l'une à côté de l'autre et qui se fondent simplement si vous, le regard s'éloigne. Et c'est un des tableaux les plus stupéfiants que l'on puisse imaginer. Et là, aucun contemporain n'a remarqué que David était capable de... Enfin, ou était capable, ou éprouvait le besoin de faire
totalement
des œuvres
du style
qui
de
sont
David,
totalement étrangères à tout ce que l'on faisait autour de lui.
Et oui, c'est presque impressionniste, si je peux me permettre.
Oui, c'est même plus que... C'est post-impressionniste.
D'accord.
C'est Seurat. Il y a un petit morceau de paysage au pied de la psyché qui a l'air d'être un Signac. C'est tout à fait stupéfiant. Là, David est en avance de 2 siècles, moins d'un siècle et demi, sur l'évolution de la peinture. Or, ce tableau était presque inconnu jusqu'ici, et il y a 2 ou 3 autres tableaux de David inachevés qui peuvent effectivement compléter celui-là. Et là, on voit à quel point une historiographie, comme je le disais tout à l'heure, qui serait trop finaliste, qui voudrait réduire le phénomène artistique à une narration logique, serait déconcerté par une œuvre comme celle-là. Elle n'est pas à l'heure, mais l'art n'est pas souvent à l'heure. Et le tort que l'on a, c'est de vouloir que l'art soit à l'heure, qu'il reflète le désordre du monde, qu'il avance ou qu'il recule tout d'un seul mouvement.
Outre tout ce que vous venez déjà de nous rapprocher, cette exposition est fondamentale pour toute... culture, disons, en gros.
Parce que je pense que c'est surtout une exposition destinée à faire un peu réfléchir et à faire s'arrêter le regard du spectateur sur de très belles œuvres et sur l'extrême fécondité de cette époque de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Un grand, grand merci, Marc Fumaroli, de nous avoir consacré votre temps à travers ce riche XVIIIe siècle et nous ramener à l'antique. Et vos analyses seront entendues bien au-delà de l'Hexagone. Mais elles le sont déjà, car vous, qui êtes un grand voyageur, Marc Fumaroli, gageons que vous rencontrerez un certain nombre de nos lointains auditeurs toujours avides de vous écouter. Et n'oublions pas de mentionner les trois commissaires scientifiques de l'exposition, messieurs Guillaume Farou, Christophe Leribaud et Guilhem Scherf, tous trois conservateurs au Musée du Louvre.
Tous trois jeunes et tous trois extraordinairement doués et savants.
Oui, absolument. Et qu'il faut bien sûr associer au succès de cette exposition.
Ils sont tout à fait les artisans de ce succès.
Je rappelle l'exposition « L'Antiquité rêvée, innovation et résistance au XVIIIe siècle » au Musée du Louvre encore jusqu'au 14 février. Et il existe bien sûr un catalogue de l'exposition « L'Antiquité rêvée » de 504 pages et de 363 illustrations avec un essai de Marc Fumaroli. Je cite Henri Loirette, qui propose une vision aussi large que pertinente du contexte culturel ayant permis l'éclosion de ces superbes œuvres. Voilà. Mais écoutez, un grand merci, Marc Fumaroli. J'espère vous recevoir très prochainement à nouveau à notre antenne, à Canal
Académie.
Merci
de votre hospitalité.